Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 72e épisode, épisode numéro 71. Nous sommes le 2 juin 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Yannick Guerne. Bonjour Yannick, qui êtes-vous et que fais-tu dans la vie ?
Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Guerne, je suis développeur à Clever depuis moins de 3 mois. Je bosse sur les bases de données. Et autrement, je tiens un blog technique avec tout et n'importe quoi, tout ce qui m'intéresse en fait dans la technique.
Tu fais également pas mal de Twitch, si je dis pas de bêtises.
Oui, aussi.
Ah, on mettra les liens pour que les gens suivent ta chaîne. Nous sommes également en présence de Pierre Zemb. Bonjour Pierre, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ?
Bonjour à tous, du coup je m'appelle Pierre Zemb et quand je joue pas au squash, je fais de l'opérationnel et un peu de Rust.
Ah, donc aussi dans les bases de données chez Clever Cloud.
Si également, ouais.
Voilà. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité merveilleux qui s'appelle François Téchenet. Bonjour François, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ?
Bonsoir. Je m'appelle François et je suis développeur chez StarTree. Donc on est une société qui faisons un produit en SaaS pour mettre à disposition une base de données qui s'appelle Pino, qui est sous Fondation Apache, et de fournir plein de choses autour de ça pour faire de la grosse data, de la grosse donnée.
J'ai l'impression d'être face à trois Jean-Michel bases de données aujourd'hui, ça va bien se passer. Tu participes à d'autres trucs dans la communauté, François, on te voit dans quelques conférences, tu es même organisateur d'une conférence.
Oui, je fais dans le monde d'avant. Je faisais beaucoup de choses dans le monde d'avant et maintenant j'en fais encore beaucoup. Donc, je suis organisateur de Sony Tech, je fais partie du regroupement des meet-up techniques de Montpellier, même si on essaye de relancer. Je donne quelques confs un peu partout en France, on a peut-être déjà dû me croiser et du coup je parle de plein de choses différentes, même si je suis notamment plutôt dans le monde back-end, un petit peu de programmation fonctionnelle et dans le binôme dev et gestion cloud, puisque je fais de l'opération aussi et je mets à disposition des bases de données, mais moi je le fais en code, donc juste en gestion d'infra.
Super. Tu as aussi une chaîne Twitch, si je ne dis pas de bêtises, qui était très active pendant le confinement.
Ouais, qui n'est pas active en ce moment, mais que j'espère relancer et peut-être qu'on fera des trucs avec Akanoa justement.
Et pour rentabiliser tout ce setup. Un grand moment.
Voilà. Pour rentabiliser tout ce setup incroyable qui a été payé, bien évidemment, et que je n'ai pas encore pu rentabiliser. Et grâce à ça, je peux faire des choses comme ceci.
C'est non.
Voilà.
La sandboard a commencé, est inaugurée, c'est parti. Et j'avais une dernière question pour toi, François. Donc moi, je suis plutôt front-end, je connais des bases de données, mais Pino, comment tu me le résumerais par rapport à... Moi, je connais PG, MySQL, je connais des trucs un peu graphes, genre Neo, je connais des trucs un peu de documents, genre Mongo ou autre. Tu me le classes comment ? Dans quel cas c'est vraiment vachement plus pertinent que d'autres bases, quoi.
Alors, c'est fait pour faire de la grosse donnée, littéralement. C'est une base colonne qui est fait pour, en fait, prendre des données en real time. Et en fait, c'est une des bases qui est dans le segment de ce qu'on appelle l'analytique temps réel. Et donc, l'analytique temps réel pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'en gros, le but du jeu de ce genre de base, c'est de fournir des données, des bases de données distribuées qui vont avoir un throughput très fort en termes de latence de réponse de query sur des gros volumes de données, mais aussi de la fraîcheur de données, donc la latence d'ingestion. Et tout ça, bien évidemment, en étant capable de supporter pour énormément d'utilisateurs. Donc globalement, on est dans le segment des bases comme Druid, ClickHouse et du coup Pino. Et c'est une base qui a été créée du coup chez LinkedIn pour régler leurs problématiques internes quand ils avaient des besoins d'analytique temps réel, comme par exemple quand tu vas sur ton feed LinkedIn, à savoir combien de recruteurs tu as vu, combien de recruteurs sont venus voir ton système. Bah, c'est en temps réel, en fait. À chaque fois que tu rafraîchis ta page, si un recruteur vient sur ta page, dans la seconde qui suit, tu as ton compteur qui a été mis à jour. Et toutes ces données temps réel en fait d'analytique, il fallait bien un truc pour les computer, et vu qu'ils n'avaient pas tous les pré-computer toutes les 5 minutes avec du temps de calcul, ils ont créé une base de données pour gérer ça à haute échelle. Donc on parle de millions d'événements d'ingestion en seconde, etc. sous la seconde, et ça a donné Pino, et du coup pas mal des créateurs de Pino se sont dit on va lancer une boîte à partir de ce produit, comme Kafka d'ailleurs et Confluent, et c'est StarTree en fait.
D'accord. Et vous êtes un peu dispatché partout, tu bosses en distribué
Alors la boîte est majoritairement à San Francisco, hein, 90% ouais. de la boîte est à San Francisco. On est, moi, l'équipe avec laquelle je travaille est majoritairement québécoise, et on est 4 Européens, on est 2 Français, hein, qui travaillent sur un outil extérieur qui s'appelle Third Eye. Cyril, bonjour si tu écoutes, et moi qui travaille sur la partie cloud, qui suis l'Européen du cloud.
D'accord.
C'est beau.
Tu es l'Européen du cloud.
Exactement.
Mot-clé.
Super. Eh bien, François, bienvenue parmi nous. Et on va commencer tout de suite avec deux petites annonces Clever Cloud, hein, pour juste rapide pour commencer. On a sorti un add-on, un Matomo managé pour remplacer Google Analytics. En deux mots, Pierre, tu peux nous dire vite fait
Ouais. Alors, du coup, Matomo, c'est un remplaçant open source de Google Analytics. Donc, pour rappel, la CNIL, en fait, a rendu Google Analytics illégal en France. Et l'idée, c'est de pouvoir déployer un Matomo en one click. Donc, voilà, pour pouvoir partir de Google Analytics.
On vous incite à lire le blog post pour tous les détails. En fait, ça va auto-déployer sur Clever un PHP, un MySQL, un Redis, etc. Tout ce qu'il faut pour que ce soit bien configuré. Et c'est managé avec la dernière version. On suit les versions au fur et à mesure. N'hésitez pas à lire si vous voulez en savoir plus. L'autre annonce, c'est qu'on a sorti ce qu'on appelle le Ticket Center. Donc, c'est une évolution de la petite bulle de chat qu'on avait pour discuter avec notre super équipe de support qu'on a chez Clever. Et donc maintenant, avec ce Ticket Center, vous allez pouvoir avoir plusieurs discussions en parallèle sur plusieurs sujets différents, et vos collègues vont pouvoir suivre les discussions. Et ça manquait vraiment. Donc n'hésitez pas à lire le lien du blog post qu'on aura mis en description. Donc ça, c'était pour les petites annonces Clever. On commence tout de suite avec la veille techno, et bien entendu, on va commencer par donner la parole à notre invité François. Tu veux nous parler d'Académie française et de jargon, peut-être ?
Alors oui, alors ça, c'est celui qui a été rajouté ce matin, parce que dans mon coworking, il se trouve que je suis avec beaucoup de traducteurs. Et du coup, on a souvent des grands débats sur les lingos techniques, etc. Et moi, je suis également un gros joueur. Et ce matin, on m'a linké un article, justement. Alors attention, c'est The Guardian.
The Guardian, oui.
The Guardian. Où justement, en fait, qui relaye, ou apparemment... Il y a eu une annonce qui a été faite par le ministère de la Culture, je crois, si je me souviens de l'article, en tout cas fait avec l'Académie française, pour du coup franciser tous les termes qui sont liés aux jeux vidéo, qui sont extrêmement anglophones. Donc par exemple, on a des pépites comme le fait que streamer devient joueur animateur en direct, que le fait que le cloud gaming devient le jeu vidéo en nuage, ou l'e-sport qui devient le jeu vidéo de compétition. Donc voilà, comme d'habitude... on n'en aura rien à faire, mais sachez que maintenant l'Académie française veut que vous francisiez vos termes de gamer. Voilà.
On en a vu des pires, hein, quand même. Genre l'acolyte des illustres pour dire un follower, c'était pas mal. Mais là, ouais, le jeu vidéo nuage, j'aime bien.
C'est... Joueur animateur en direct, moi, c'est celui que je retiens.
Ouais.
Moi, j'ai hâte de voir la traduction de Adekari.
Ah oui,
ça va être très, très rigolo. Adekari, c'est un rôle dans un jeu vidéo qui s'appelle LOL.
C'est du LOL, ouais.
D'accord, ouais.
Et dans la Ligue des Légendes.
La Ligue des Légendes, du coup, ouais.
Bien évidemment, je suis joueur attaque dommage, et je suis du coup,
de support.
Support, mais attends, t'es pas support ? Non, je suis carry. Mais support ? Non, mais...
On va jamais arriver.
Le bordel.
Bien, encore des termes qu'on n'utilisera pas forcément, qui nous font un peu sourire, même.
Alors surtout qu'en plus, celui qui me fait le plus rire, c'est streamer, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis streamer comme joueur animateur en direct, sauf qu'ils oublient une partie, c'est que streamer, c'est pas forcément que des gens qui font du jeu vidéo, même si ça a été popularisé via ça. Parce que typiquement, Akano et moi, on joue pas, quand on se met sur Twitch, on code.
Non, on fait du just chatting, non ? C'est ça ?
Et voilà, non mais c'est... voilà. Bref, passons à autre chose, parce que sinon, on va y passer 4 heures.
On va jamais y arriver. On va faire un effort pour pas dire trop de termes en anglais aujourd'hui, ça va être marrant. On enchaîne avec un lien de Yannick qui va nous parler de NixOS.
Oui, alors Nix, c'est François qui me l'a fait découvrir durant un stream. Ça a l'air d'être un peu le fil conducteur de cet épisode. Nix, c'est un système de packaging qui se base sur l'immutabilité de tout ce qu'on installe. Tout ce qu'on va installer va avoir un checksum mais de manière hiérarchique, en fait. Les dépendances vont avoir leur checksum et les dépendances des dépendances vont avoir leur propre checksum et ainsi de suite. Et donc, quand on installe quelque chose avec Nix, on est capable de savoir au bit près qu'est-ce qui va être réellement installé sur sa machine pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment reproductible d'une bécane à l'autre. Et donc, on peut descendre très, très, très bas jusqu'à la libc, par exemple, pour des installations vraiment vénères. Et il y a d'autres trucs super sympas avec... Et il y a des trucs vraiment sympas avec Nix aussi, c'est la possibilité d'avoir des liens symboliques vers différentes versions des paquets qu'on installe. Et donc avoir plusieurs versions installées sur sa machine, et chacune de ces versions vont avoir leur propre arbre de dépendance. Et du coup, en fait, ça va permettre de pouvoir switcher... On a dit pas d'anglicisme.
De pouvoir changer
la version de ce qu'on utilise. Donc, par exemple, vous avez une PG d'installer en version 10, une autre en version 11, et on va pouvoir, en fait, passer d'une version 11 à une version 10 juste en changeant un lien symbolique. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très puissant et très, très rigolo. Le problème de Nix, c'est que ça a été fait par des barbus, plus barbus que moi. Et du coup, bah, c'est assez compliqué à mettre en place pour un utilisateur, on va dire, standard. Et là, il y a eu une annonce avec la nouvelle version de Nix, qui est la version, je ne sais plus.
22.05. Ouais.
Qui est que maintenant, Nix va pouvoir s'installer, et d'ailleurs, c'est pas Nix qui va s'installer, c'est Nix OS, donc un OS basé sur le système de packaging Nix, va pouvoir s'installer de manière graphique en utilisant un installeur générique. C'est un framework, en fait, pour créer des installeurs graphiques. Et du coup, bah, pour installer Nix OS, maintenant, c'est suivant, terminé.
Donc ça devient beaucoup plus accessible à n'importe qui veut s'essayer à NixOS, c'est un peu moins... tout cas, il y a toujours une différence de... Ouais, non, je déteste ce terme, Barbie, désolé.
Mais ça devient
plus accessible quand t'es moins familier avec tout ce qui est ligne de commande et c'est plus graphique, c'est toujours plus accessible, quoi.
Et cool. D'ailleurs, on a Pierre qui a NixOS d'installer sur son laptop.
Sur le laptop perso,
en graphique.
En perso, ouais.
J'avais besoin d'un laptop, j'avais un problème sur mon laptop pro, j'avais besoin d'un laptop perso, j'ai réinstallé, c'était le moment, j'ai réinstallé, c'est pas mal. Hein. L'installateur, il marche plutôt bien, chose assez rare, il supporte de chiffrer le disque par défaut.
Ouais.
Donc, non, pas mal du tout. Et ça... Moi, je supporte plus faire des installs à la main. J'en ai trop fait. C'est l'overdose d'install à la main. Du coup, je trouve ça toujours agréable d'avoir un clic-clic qui chiffre ton disque et après tu custom.
Ouais. Ouais. Sur comment ça s'appelle Arch, il y a un installeur maintenant, mais en ligne de commande. Quoi. François, tu voulais dire,
ouais. Ouais, bah c'est le fameux truc effectivement par rapport à l'aridité, c'est que bon bah c'est l'installeur NixOS, je pense qu'il doit avoir des trucs pour faire des packages Nix derrière, parce que il est vrai que je conseille avant de tenter du NixOS de déjà essayer d'utiliser Nix sur sa machine comme un gestionnaire de paquets, hein, juste pour faire des environnements de développement, hein, c'est le premier truc que moi j'ai essayé de faire avec un Nix Shell pour lancer un environnement de développement dans un projet qui soit pas lié au système, ce que je trouve d'ailleurs mieux foutu que Docker, en vrai, quand on commence à essayer de travailler dans ce genre d'endroit. Parce que Docker, c'est chiant, parce que tu montes un conteneur, mais du coup, il faut monter tes disques locaux dans le conteneur pour qu'il y ait une espèce de sortie, t'as des gestions de permission un peu nulles. Enfin, tu te prends souvent la tête, tous ceux qui ont essayé, on s'est un peu toujours pris la tête. Alors que dans NixOS, c'est vraiment, vu que c'est beaucoup plus basé sur juste de te faire travailler dans un file system qui est immutable, c'est vachement plus simple pour ce genre de cas, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est ultra aride. Hein. En fait, la documentation officielle, elle est assez dure à comprendre. Langage de configuration, je ne sais pas si c'est du Haskell ou si c'est un truc basé sur Haskell, mais faut se le fader.
Ça pique.
Ah, c'est horrible. C'est, j'ai jamais autant fait de copier-coller sans comprendre ce que je faisais pour avoir ce que je voulais. Ouais, ça marche, hein. C'est fonctionnellement fonctionnel, mais c'est horrible. On passe des heures à essayer de faire un truc simple. Mais une fois que c'est fait, quoi.
Et c'est reproductible.
C'est ultra cool, mais c'est... Ça fait un peu partie de ces langages, enfin ces trucs un peu abscons comme dalle sur lequel en fait tu vas passer des heures à te taper la tête pour au final voir la valeur du truc et dire à quel point c'est génial. Le problème c'est que tu te rappelles tout ce chemin que tu as tapé où tu te dis
ouais, vraiment, oh mon dieu.
Je suis un grand adorateur de dalle à cause de toi aussi d'ailleurs.
On mettra peut-être un lien vers dalle pour ceux qui se demandent ce que c'est dans les notes. Ok, super. On enchaîne avec un lien de François qui va nous parler de Vector.
Ouais, alors du coup, moi je suis un grand utilisateur de Vector au travail, donc ceux qui connaissent pas Vector, c'est un agent en fait de collection de logs et de métriques qui a été développé par Timber.io à l'époque et qui maintenant fait partie de Datadog, puisque Timber.io a été racheté par Datadog. Donc c'est un agent qui permet de configurer des sources et des syncs et des transformations au milieu, donc autour de la métrique et des logs. Moi je le trouve très bien parce qu'il a beaucoup de sources, il y a beaucoup de syncs, beaucoup plus en tout cas que ceux que je connais, type FluentD, etc. Je les trouve en plus écrit en Rust, donc forcément j'étais forcément conquis dès le début. Mais en vrai, je trouve que l'agent est vraiment très bien. Et là, ils ont sorti du coup la 0.22. Donc il y a quelques breaking changes à aller vérifier si jamais vous voulez monter de Vection. Sinon, il y a des trucs que je trouve très cool qui ont été ajoutés, notamment le fait que maintenant dans les syncs, on avait déjà un sync HTTP qui existait, mais maintenant ils ont rajouté un sync WebSocket qui est vraiment très cool pour éviter de rouvrir des connexions en boucle et éviter de devoir batcher. On a un support des boucles qui est fait dans leur espèce de langage qu'ils appellent VRL, qui est en fait un langage qui permet de remapper des sources en fait, et des sorties en termes de données, donc sur les métriques et les logs. Donc ça, c'est quand même cool. Ils ont rajouté une source qui est le GCP PubSub, donc, qui était un peu manquant si on était sur GCP. Et ils ont fait quelques optimisations de perf et encore plein d'autres trucs. Allez voir le billet de blog, etc. En tout cas, si jamais vous ne connaissez pas Vector, moi, je vous encourage à aller regarder parce que je trouve que c'est un super outil.
Je suis complètement d'accord.
On en a cool. En, on en
Pierre,
a en prod.
Dire,
ouais, on en a en prod pour gérer des access logs et deux trois conneries. Et on aimerait, on va améliorer la partie. Enfin, on va investir dans Vector. Est-ce que tu sais si la partie tracing est atterrie dans la 0.22? Parce que je sais que c'était un truc qui était en draft, ça a commencé à être émergé, mais je ne sais pas si ça a été release, je ne pense pas.
Alors, je ne l'ai pas vu dans le billet de blog, en tout cas, dans la 0.22, je n'ai rien vu qui parlait du tracing. Après, effectivement, peut-être qu'ils ont rajouté des trucs qui ne sont pas encore annoncés, vu que c'était expérimental.
Enfin,
ou alors, peut-être que je ne l'ai pas vu, tout simplement, parce que...
Moi, j'avais vu qu'ils avaient mergé les primitives de tracing. Donc, comme ça, tu peux envoyer, tu as des traces OpenTelemetry, tu peux te dire que tu les collectes également dans Vector, ce qui est quand même plutôt pas mal.
Ouais, parce que c'est vrai qu'un des gros avantages de Vector, c'est qu'il supporte beaucoup de formats en entrée, en termes de sources, et beaucoup de sorties aussi. Avec leur VRL qui permet de faire les transfos, c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a pas mal de supports, mais il y a encore des trucs qui sont manquants parce que, en vrai, même si je trouve que j'ai pas trouvé de trucs qui se connectent à autant de choses et qui supportent autant de formats, bah, il y a toujours des trucs à rajouter puisqu'il y a toujours des nouveaux formats. Team là, j'ai au boulot, on est en train d'essayer de travailler à envoyer des stacks JFR. Bon, bah, bien que Vector il a pas le support du format JFR en input, quoi.
Et surtout, il est léger.
Et oui. C'est full en BD, tu le prends, tu le poses, ça tourne.
Tu veux dire quelque chose, Yannick ?
Et ouais, et surtout, bah, c'est super simple en fait de pouvoir créer ces formats custom. Le VRL, il est vraiment facile d'utilisation. C'est une version très très simplifiée, une sorte de Python un peu modifié. Et du coup, bah, parser des trucs, les transformer en d'autres formats, c'est vraiment super simple. On a pris des formats qui étaient un peu compliqués, de log qui n'étaient vraiment pas normalisés. Et bah, ça a été super simple dans mon ancienne boîte de créer vraiment une centralisation des logs venant de Python, de Java... d'autres vecteurs, parce que vecteur peut être à la fois serveur, agent, et puis rebalancer sur d'autres agents, c'est vraiment un produit de ouf, quoi.
Cool. Vous avez d'autres choses à rajouter sur Vector? Non. Eh bien, nous allons enchaîner avec le prochain lien qui est un lien de Pierre. Tu veux nous parler de Dragonfly? Dragonfly, c'est une libellule, non? Non, c'est pas ça. Si?
Attends.
Non, j'ai un doute.
Je sais plus.
Ou alors c'est un animal qui n'existe pas, je sais plus.
Autrement, c'est une capsule de Tesla.
Oui, j'avoue, ouais. Ouais, donc Dragonfly, c'est un projet qui est apparu il y a quelques jours. Donc c'est une nouvelle base de données, une autre encore, on n'en a jamais trop. Ça rejoint la liste des 900 bases de données dans lesquelles on peut choisir. C'est une base de données qui est in-memory et qui s'apparente à du Redis et à du Memcached. Et d'ailleurs, ça supporte le protocole Redis et Memcached. Donc en fait, c'est un drop-in replacement. Donc tu changes juste l'adresse de ce que tu envoies théoriquement, et théoriquement ça marche. Alors pourquoi avoir recodé une nouvelle base de données alors que Redis et Memcached ça existe? Il faut savoir que ça a été redéveloppé en utilisant de nouveaux, une architecture plus moderne au niveau du réseau et du disque. Donc en gros, ça utilise IOU Ring, qui est quelque chose qui va changer le monde de la base de données. Et du coup, ça permet en fait de pouvoir supporter et avoir des perfs assez impressionnantes. C'est 25 fois les perfs de Redis. Après, c'est du benchmark, donc du coup, c'est toujours un peu différent, mais voilà.
Moi, j'entends souvent parler, notamment chez Clever, de ta part ou de la part d'autres collègues, de IOU Ring, et c'est genre le terme.
Oui.
Genre, je l'entends, je sais que c'est un truc, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire et de ce que c'est en fait.
Ok. En gros, quand tu manipules du réseau et du disque, tu manipules. Enfin, tu vas utiliser des syscalls, donc des call systems, qui vont faire des trucs. Ces dernières années, le hardware a tellement évolué que le coût que tu as à passer à travers les syscalls et les abstractions de Linux font que tu as un overhead de 40 ou de 50% sur les calls. Avant, ça dérangeait pas parce que le matériel était lent. Aujourd'hui, tu te prends tu perds 50% de performance parce que les syscalls sont pas adaptés au nouveau hardware, c'est embêtant. Et donc du coup, il y a deux strates. T'as soit tu te dis, tu arrêtes de passer par les syscalls et tu bypasses les syscalls et tu te débrouilles à faire ça dans ce qu'on appelle le user land, donc côté user. Donc ça, c'est des trucs, c'est les SPDK et tout cet aspect-là. Et sinon, tu as l'aspect où on dit, en fait, les syscalls sont trop lents, on va faire un nouveau jeu de syscalls qui, lui, sera adapté au nouveau hardware. Et donc, c'est ce qu'on appelle IOU Ring. Et donc, c'est des perfs, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que tu prends un système avant IOU Ring, tu prends un système qui utilise IOU Ring, tu fais x10 gratuitement.
Ah ouais.
Mais ça demande d'être redéveloppé les couches basses. Voilà, je sais pas si.
Quand tu dis couches basses, c'est des couches qui vont discuter
les couches
avec
qui...
l'OS, avec le proc.
Ouais. En fait, hein.
Avec l'OS, ouais.
D'accord.
C'est les syscalls. Avant, tu avais. Alors, j'ai oublié, voilà. J'ai oublié le nom c'était IPOL sur. Tu faisais du IPOL, en fait, tu faisais des syscalls IPOL qui, du coup, déléguaient à ton kernel comment faire des appels à 5. Et maintenant, en gros, va avoir des syscalls IOU Ring pour pouvoir faire les mêmes choses, mais ils changent un peu la manière dont ils travaillent. Et du coup, ça change comment les langages parlent avec, comment les librairies qui utilisent des syscalls parlent avec, tout ça.
Ok. Et donc, je t'ai un peu coupé, Pierre, t'étais en train de dire, tu parlais d'IOU Ring, tu disais qu'au niveau des benchmarks, c'était impressionnant par rapport à Redis. Moi, j'allais te demander, là, je peux utiliser un client, un SDK Redis sur mon langage préféré, et je peux à peu près discuter avec un Dragonfly ?
Ouais, c'est la promesse, ouais. Il y a quelques opérations qui sont pas supportées, c'est marqué dans le GitHub, mais en vrai, il supporte 130 commandes Redis et toutes les commandes Memcache. à part CAS, c'est copy, je sais plus qu'est-ce que c'est CAS. Enfin bon, ils supportent 80-90% et ils continuent à améliorer. Le seul souci que j'ai vu, moi, en me balayant dans Dragonfly, c'est la licence. C'est une licence un peu comme les licences de CockroachDB, de Maria, de Redpanda. C'est pas des licences qu'on peut utiliser pour fournir du service derrière. C'est où les ouais. licences élastiques, c'est toujours pareil. Hein.
Donc c'est plus genre moi j'ai mon.
T'as un besoin.
J'ai mon serveur dans un cloud, j'installe moi-même Dragonfly. Par contre, si nous Clever en tant que fournisseur, on veut le fournir et avec tout ce qu'il faut, il faudra potentiellement mettre en place des partenariats, etc. C'est ça.
Chose qu'on peut faire, on va surveiller la techno.
Oui, bien sûr.
On est en 0.1.0. Enfin, Dragonfly est en 0.1.
C'est ultra récent en fait.
Oui, c'est ultra récent. Ouais.
Et c'est codé en quoi ?
C++.
Ah la vache. François ?
Ouais, alors j'ai regardé, alors bien évidemment comme d'habitude, toujours ultra intéressant toutes ces parties-là. Alors déjà, moi à chaque fois j'entends les perfs et les benchmarks. Combien ? Voilà, tu vois, c'est bon, let's go. Bon déjà c'est eux qui l'ont fait, hein, ça c'est habituel, faudra voir les benchmarks ouais. comparatifs. Mais surtout ce qui m'a surpris c'est que dans leur système, en gros ils te disent c'est compatible avec le layer de call Redis. Et surtout, j'ai pas trouvé, alors Pierre, vu que t'as creusé un peu plus, est-ce que tu as vu leur propre protocole ? Est-ce qu'ils ont des clients, genre dédiés à leur protocole, ou est-ce qu'ils ont vraiment parti sur l'idée de faire, on fait Redis et Memcache en input, et on verra plus tard pour faire le nôtre, tu vois ?
C'est dans la 0.2. En fait, on est en 0.1, ils veulent faire la Redis Memcache en compatibilité, et ils veulent faire un client qui patate un peu plus et qui aura leur propre proto Dragonfly. Après, je n'ai pas regardé comment ça se passera en compat, mais j'avais vu une histoire de avoir un client qui patate un peu plus, on va faire notre propre proto.
Okay. Ouais, en gros, ça target de remplacer du Redis de manière un peu shadow derrière pour en entrée de marché, et après, ça verra pour faire son propre truc. Quoi.
Après, c'est toujours pareil, c'est du mononode in-memory. T'es pas distribué, t'es pas tolérant à la panne, c'est toujours la même chose.
0-1, c'est du 0-1, oh là là, de suite, le mec il arrive,
par contre ça patate.
Quelle indignité quoi, vraiment, le mec il tape sur du 0-1. Oh.
Par contre les gars, vous venez d'exploser le compteur d'expression anglaise depuis tout à l'heure entre Cisco,
tu tiens le compte ? Moi j'ai arrêté etc. au bout de la 10e minute.
Juste vous rattraper en disant sa patate, qui est peut-être une expression bien française, mais voilà.
Pardon.
Cool, est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? On va suivre un peu ce que ça devient, mais forcément c'est une 0.1, j'imagine que... On a largement le temps de voir venir avant que ça arrive dans je ne sais quel rayon du radar ThoughtWorks.
Mmh. Ça fait partie de cette espèce de nouvelle... Je pense que Pierre est d'accord avec ça aussi, même s'il pourra me contredire. C'est un peu sous cette nouvelle génération de bases de données qui est un peu en train de venir garder les protocoles, mais venir essayer de remplacer les bases existantes en venant rajouter un peu plus de patates et de perf. Quoi.
Ouais.
Je contredis rien.
Ouais. Tu pourrais, hein.
Et donc, avant d'enchaîner pour nos auditeurs, Dragonfly, c'est bien, bel et bien une libellule en anglais.
D'accord.
On s'imagine Dragonfly un truc énorme, mais. on va enchaîner avec un lien plutôt front-end, on va dire, qui est un lien que j'ai ramené moi. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me permet de caler. Pour la première fois, je crois, dans le podcast, que maintenant, chez Clever, on a une équipe front-end. Je ne suis plus seul, on a recruté 3 personnes. Et notre alternant, Mathieu, qui était là depuis quasiment 2 ans, est en train de terminer son alternance. Donc, il va bientôt passer à temps plein. Du coup, le channel de Veille Techno qui alimente le podcast est un peu plus fourni en lien front-end. Et notamment, j'ai un collègue qui a partagé un article qui vient de UX Design qui s'appelle « The Dark Yellow Problem in Design System Color Palettes ». Donc, le problème du fameux jaune sombre qui veut tout et rien dire. Et en fait, c'est vachement intéressant. Alors, c'est pas du tout radiophonique puisqu'on est en train de parler de couleurs. Mais je vous conseille vraiment de le lire et surtout d'aller voir les exemples. Mais en gros, quand vous avez un design system, que vous bossez particulièrement sur une application de gestion, mais Disons que c'est moins vrai sur un site institutionnel un peu marketé. Mais dès que vous êtes sur une application de gestion, bah, on va reprendre les codes plus ou moins universels du feu tricolore. Le vert, c'est quand ça va bien. Le rouge, c'est quand ça va pas. Le bleu, c'est quelque chose qui reste en général assez neutre. Et l'intermédiaire, comme sur un feu tricolore, c'est le jaune. Sauf que le jaune, il a une luminosité relative, qui est un terme technique avec un algorithme pour calculer sa valeur, qui n'est pas du tout le même qu'un bleu, un vert ou un rouge. Et en fait, ça pose énormément de problèmes. Et donc là, dans l'exemple qu'il cite dès le début, imaginez-vous des petits badges, un petit rectangle où il y a un statut, in progress, ready, error ou ce genre de truc. Souvent, on va associer ces trucs-là à des couleurs. Donc, le in progress va être bleu, le error va être rouge. Et puis, bah, on va parfois avoir un statut qu'on a envie un peu entre le ça va bien et ça va pas, qu'on va mettre en jaune. Et donc, c'est très facile d'écrire en blanc. Enfin, c'est très facile. C'est facile d'écrire en blanc sur du bleu, du rouge et du vert. Encore faut-il respecter les ratios de contraste nécessaires pour l'accessibilité. Mais écrire en blanc sur du jaune ou écrire en jaune sur du blanc, c'est en général la recette pour faire n'importe quoi. Et du coup, il explique un peu, avec énormément d'exemples de captures, ce que eux, dans leur système, ils s'autorisent à faire et ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire. Et notamment, il arrive sur le problème du dark yellow, du jaune sombre, qui est en fait une espèce de marron, quoi. Enfin, c'est pas mal parce qu'il va souvent dire on va mettre énormément de jaune très clair en fond. Par contre, on va jamais écrire en blanc dessus. Et c'est potentiellement les rares fois où on va s'autoriser à utiliser cette espèce de jaune foncé, de marron. Encore une fois, c'est pas radiophonique, je suis désolé, mais allez lire l'article, c'est passionnant. Au final, si vous y intéressez peu, ça vous fera des rappels sur les ratios de contraste, sur l'accessibilité, sur le concept de luminosité relative, et ça vous permettra d'aller taquiner vos propres collègues si jamais votre design system a des problèmes de ce genre-là sur les couleurs, quoi. Je vous ai aussi mis un lien sur un site qui permet de calculer la luminosité relative d'une couleur. C'est un pourcentage. Et donc, en général, vous choisissez un bleu, un rouge, un vert qui sont à peu près dans la même luminosité relative pour pas qu'il y en ait un qui ressorte plus que l'autre. Et si vous essayez d'avoir un jaune qui est au même niveau, bah, il va pas être jaune, il va être clairement marron ou autre. Enfin, c'est tout le problème. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez pris le temps, parce que je l'ai posté tard, de regarder les exemples sur le lien, et si ça vous inspire quelque chose.
C'est des trucs auxquels je n'ai jamais fait attention.
François, ouais.
Ouais, moi justement, alors j'ai pas eu le temps de voir les liens. Enfin, j'ai vu le lien. Je suis passé en diagonale parce que c'était ce matin tôt et que j'avais d'autres trucs à lire. Mais je vais vraiment aller voir parce que typiquement, ça rejoint une des problématiques qu'on a eues, nous, en ce moment, au bureau. Parce que, en gros, on fait un back-office pour nous sur la partie cloud. Et en fait, alors c'est un peu étonnant, mais nous, on a une équipe qui gère vraiment la partie UI front qui est visible par les customers SaaS, hein, les clients SaaS. Et du coup, on a d'autres choses à faire. Quoi. Ils ont plein de choses à faire. Du coup, on a un back-office et on le développe nous-mêmes. Alors, je peux te dire qu'effectivement... C'est un peu un délire. Disons qu'on sait que c'est un truc, un jour, on va se faire jeter quand il y aura des vraies personnes qui savent faire de l'UI des designers qui vont venir pour nous faire quelque chose. Et on a eu le problème parce qu'on a justement des gestions d'opérations. Et justement, j'ai un collègue qui a essayé de faire des trucs comme ça en passant du vert, jaune, rouge sur un truc de statut pour avoir un statut lisible de ce qui s'est passé sur les flux d'opérations. Et le jaune, c'était une putain de dégueulasserie. C'était immonde. Vraiment, le rouge et le vert, tu fais bon, c'est un peu... Bon, ça. Les mecs qui gèrent des serveurs qui les ont fait, donc bon, tu vas pas, faut pas formaliser quoi. Mais derrière, vraiment, même en se formalisant pas, tu faisais vraiment le jaune, c'était un vrai problème quoi.
Le orange, l'orange place bien, je trouve.
Oui, alors, mais en orange, tu restes en général sur une luminosité assez. Tu retrouves des problèmes assez similaires au jaune, mais un peu plus tard. Mais en termes de contraste et d'accessibilité, ça reste très problématique, le orange. Et, Et donc, ouais, non, moi, si je peux vous donner des conseils, si vous baignez là-dedans, lisez l'article, c'est hyper intéressant. Vérifiez vos ratios de contraste, faites auditer vos applications par des professionnels, etc. En tout cas, l'article était cool. On arrive très vite sur une couleur de moutarde, en fait, enfin, de jaune foncé. C'est marrant. On va enchaîner sur un autre lien un peu front-end CSS avec un lien de Yannick. Tu vas nous parler d'unités de mesure en CSS, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, on va continuer avec le bloc CSS, mais cette fois-ci de la vision d'un développeur back-end, donc qui fait jamais ou presque de CSS dans sa vie, mais qui, des fois, on en a besoin pour faire des choses très, très, on va dire, rapides, pour faire, par exemple, du back-office, comme François. Ouais. Avant de découvrir Pico CSS, j'utilisais Bootstrap pour faire mes back-office, mais des fois, j'avais besoin de faire un module qui était vraiment spécifique. Et à chaque fois, en fait, c'était l'enfer pour moi quand j'essayais de faire quelque chose qui devait rentrer dans un écran qui changeait de taille. Parce que j'avais pas toutes les connaissances pratiques pour comprendre comment marchait le système d'unité. Donc oui. Je l'ai appris à la dure, à coup de Mozilla Documentation. Je sais plus ouais. Comment il s'appelle, MDN.
Ouais, Mozilla Developer Network. Enfin, ouais.
Et bon an, mal an, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Et à cette époque, j'aurais bien voulu avoir l'article que je vous propose aujourd'hui, parce que déjà, le site, il est super beau. Juste... Ouais,
C'est le site de Josh Como,
exactement.
Qui est juste... Enfin, c'est dingue, il est trop, trop bien son site.
Je suis abonné à sa newsletter, donc parfois je regarde un petit peu ce qui est fait. Et là, pour le coup, il a fait une page qui explique déjà les différentes unités qu'on peut avoir en CSS. Donc il y en a plusieurs, c'est les pixels, les EM, qui sont en gros des trucs qui sont liés à la taille de la police de la page, et les REM, qui sont des trucs un peu plus compliqués, qui sont relatifs aux blocs qu'on est en train de manipuler. Enfin,
c'est l'inverse, du coup. Ouais.
C'est l'inverse. Ok, ouais. Bon, pardon.
Pas grave. Les EM, c'est relatif à l'élément dans lequel t'es, et donc potentiellement la taille de police qui est appliquée sur l'élément, voire l'élément parent, parce que c'est hérité. Par contre, les REM, c'est relatif à la taille de la police sur la balise HTML.
C'est ça ?
Ouais. Bon, voilà, je suis
voilà,
en
vous avez attendu tout ce temps pour savoir.
Mais, et du coup, cet article-là, étant donné que le site est beau, je vais me rappeler de son existence. Et quand j'aurai besoin d'aller rechercher l'information, que j'ai déjà oubliée alors que j'ai lu l'article il n'y a même pas une semaine, je saurai où la trouver. Et comme l'article, il est fait sous la forme de différents modules interactifs.
Ouais, c'est ça qui est génial.
Avec, on peut modifier le code, on a des curseurs qui permettent de pouvoir modifier la fonte en pixels, en REM, en EM. On voit directement en fait le résultat que ça peut provoquer sur une page. Et en plus, si on s'amuse à jouer avec du responsive, son site étant lui-même responsive, on voit aussi le résultat que ça peut donner. Donc voilà, c'était mon petit lien CSS pour ce podcast.
Moi, je rebondis dessus parce que. C'est vrai que les EM, ça a toujours été une unité un peu compliquée à appréhender dès qu'il y a des imbrications de taille de police différentes. Quand les REM sont arrivés, on s'est dit « Ah, ça va être vachement plus simple parce qu'on va tout le temps se baser sur la taille qui est définie dans le document au niveau HTML. Sauf que pendant longtemps, je ne sais plus si c'est le cas, mais Bootstrap a forcé la taille de police dans la balise HTML. Et en fait, c'est une mauvaise pratique. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'ignorer les réglages du navigateur de l'utilisateur. potentiellement l'utilisateur a envie d'avoir une police par défaut qui est plus grosse que 16 pixels, et donc il va régler dans Firefox, Chrome, je veux une grande police sur mon navigateur. C'est d'ailleurs, sur mobile, ça peut même être hérité d'un réglage global à l'OS. Donc, il ne faut jamais dans la balise HTML redéfinir font size X pixels en dur. Et ce que font pas mal de frameworks, en tout cas Bootstrap par défaut. Et nous, à cause de ça, on a dû passer des REM à des EM dans nos composants chez Clever. En fait, tous nos composants, dès qu'on avait des dimensions, on se basait en REM. Comme ça, on se disait, si l'utilisateur a mis une grosse police, au moins nos composants s'adaptent et ils sont écrits en gros, etc. Sauf que quand on a intégré nos composants dans notre documentation, qui est faite avec Hugo et où un thème a été fait par un prestataire basé sur Bootstrap, sur notre doc, le truc est reset, en fait. Donc, comme il est reset à... une espèce de truc magique qui fait que ça revient à 1 REM égale 10 pixels, tous nos composants étaient tout petits. Et il n'y a aucun moyen de le changer par composant, parce que c'est des REM, donc il faudrait forcément changer la taille dans le thème. Et donc, en attendant de pouvoir mettre à jour ce thème qui avait été fait, qui n'avait pas forcément été audité correctement, nous on passe tous nos composants en EM, et au moins on est certain qu'on s'adaptera un peu mieux à différentes situations dans lesquelles sont utilisés nos composants. Mais c'est un vrai casse-tête, et je crois qu'il le mentionne à la fin de l'article. Il y a plein d'autres unités qui arrivent en CSS et qui vont être assez fun à appréhender et à savoir laquelle utiliser, quoi. Ça va, t'as eu ton épiphanie, Pierre, du coup
Ça va changer ma vie.
Super. T'avais autre chose à mentionner, Yannick, sur le lien?
Non, après, il parle aussi des unités différentes dont tu parlais, les VH, les WH, les VW,
Toutes les unités relatives au viewport et au navigateur qui sont déjà arrivées et d'autres qui vont arriver. Ouais, c'est une vraie jungle, mais c'est vrai que son article devient vraiment un lien de référence pour expliquer avec les trucs interactifs et pour rappeler aux gens de surtout pas surcharger le... surtout pas surcharger le réglage utilisateur, quoi.
Et c'est vraiment honteux, hein, tous ces trucs-là. Moi, je tiens à préciser. Hein. Non, en vrai, l'article est super bien. C'est juste que c'est toujours le même truc. À chaque fois que j'ai un truc sur CSS, je le lis, je trouve ça super intéressant. Et après.
Et tu vas l'oublier.
Et en fait, ouais. Comme j'en fais jamais et que c'est ma hantise, en plus, Hubert, tu le sais très bien, on en discute. Oui, c'est vraiment. Je peux faire beaucoup de choses, mais alors le CSS, c'est un truc qui, moi, me passe totalement à côté. Je sais qu'il faudrait que j'approfondisse et j'ai pas le temps. Et du coup, tu sais, c'est ce truc qui reste dans un coin où à chaque fois tu te fais oh, c'est trop cool, mais en fait, moi, je l'utilise jamais, quoi.
Je pense qu'il faut surtout pratiquer.
Essaye Pico CSS. C'est très, très rigolo. Non, mais tu n'écris que de l'HTML.
Moi, je suis tout à fait honnête hein, avec les gens. Moi, je prends un framework qui me fait tout pour moi parce que clairement, c'est tellement... Ça me prend trop de temps de réussir à faire ce que je veux. Et même quand j'y arrive, je me rends compte que c'est moche après moi-même.
Oui, mais maintenant, tu sais que tu dois en prendre un qui a des jaunes et des couleurs warning accessibles et bien...
C'est pour ça que maintenant, je demande aux gens qui font quel est le framework que vous me recommandez le plus.
C'est ça.
Le coup de fil à un ami.
Il me répond et j'arrive et je fais oui.
Du coup, on va passer à un lien de François qui va nous parler d'un truc. Même le titre, je le trouve cryptique et j'ai pas lu l'article. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur
le titre de l'article, c'est Evaluating Grunge Predicates. Donc, l'idée de base, c'est c'est un article qui a été créé par un de mes collègues qui travaille du coup lui sur la base de données Pinot. Qui est un des principaux développeurs pour la performance, pour l'optimisation de la performance de la base. Et du coup, il crée un article donc, du coup, pour expliquer comment est-ce qu'on peut évaluer du coup, des prédicats, donc des assertions, quand on fait du requêtage sur un ensemble de données, et de voir combien de temps ça prend. Et du coup, je trouve que son approche est très cool. Bon, c'est en Java, parce que nous, la base est en Java, et que du coup, il l'a fait par rapport à ce sur quoi il travaille. Et il prend une approche très itérative où il part vraiment d'une approche de comment est-ce qu'il va trier, comment il va chercher avec typiquement un time range en disant, j'ai j'ai des produits, ils ont un timestamp, ils ont une quantité, ils ont un prix. Et moi, ce que je veux, c'est chercher quels sont les produits qui sont dans cette time range-là, qui ont un prix inférieur à machin et une quantité supérieure à machin. Et du coup, il fait le code avec des streams et des filters. Et en fait, au fur et à mesure, il va optimiser ça. Et c'est ultra intéressant parce que déjà, on voit un truc qui, moi, j'ai trouvé très intéressant et qui est bien expliqué. C'est rien qu'en faisant une approche de filter, si la liste est déjà triée, en fait, et que vous faites la recherche, même si vous faites tous les prédicats sur une seule assertion de booléen, selon l'ordre des booléens, qui est assez logique quand on y réfléchit, mais qui, en fait, quand ton code est très chaud, en fait, ça réduit les performances carrément par deux. C'est-à-dire que si, par exemple, elle est triée sur le temps, le fait de checker sur le temps en premier, bah, en fait, ça va réduire la perf globale de recherche sur le stream quasiment par deux, en fait. Juste parce que, ouais, en fait, quand on regarde toutes les analyses JMH, bah, on a beaucoup moins de branches miss, en fait.
C'est quoi JMH?
Alors, c'est une analyse de performance de Java qui permet de voir l'exécution du code et faire de la trace dessus et voir ce qui s'est passé.
D'accord.
Donc, c'est Java Mission Control, je crois. Non, pas JMH. Enfin, voilà. C'est les trucs qui permettent de faire des analyses de perf Java, des tiers de perf Java, et de voir ce qui s'est passé dedans. Et du coup, c'est ultra intéressant. Et en fait, au fur et à mesure, il va aller vers du binary search tree en prenant en compte le fait que ce soit trié ou non. Et à la fin, il présente une librairie qui s'appelle donc Roaring Bitmap. Donc, il y a un truc qui s'appelle Range Bitmap, qui en fait permet de construire des index sur des données non triées, en fait, tout simplement. Et du coup, en fait, il montre le gain que ça prend en exécution, donc qui est assez rapide, sans prendre en compte, par contre, le temps de création de l'index.
Ouais, c'est
principe, hein, tu crées une index, ça te coûte du temps, mais du coup, tu vas le réutiliser sur plusieurs fois, donc tu es censé gagner du temps au global. Et donc, il fait tout ce truc-là. Donc, j'ai un peu essayé de jouer avec Roaring Bitmap, c'est assez rigolo. Et du coup, bah, si vous voulez aller voir comment ça tourne, c'est très cool. Et à la fin, il link un autre de ses articles, donc... Link en français, il référence un autre de ses articles,
voilà.
Qui bien. Est du coup bah, comment est-ce qu'en fait ils utilisent tout ce qui est range bitmap et toute cette libre ring bitmap pour en fait faire l'index de range dans Apache Pinot, en fait.
Alors moi j'ai à peu près compris que c'était une histoire d'améliorer les requêtes quand on a des intervalles, des ranges. et ça marche qu'avec Pinot, range bitmap, c'est une sorte
non,
de plugin
vraiment,
Pinot,
c'est... C'est une lib qui a été pensée pour pouvoir créer des index sur des données non triées et pour pouvoir justement améliorer les performances de requêtage sur des données non triées quand on parle spécifiquement de certains types de recherches. Et là, typiquement, dans l'exemple, c'est le range bitmap, donc quelque chose qui permet de faire de l'intervalle, de la recherche par intervalle.
D'accord. Et donc ça, je peux l'utiliser sur d'autres bases de données.
Tu peux l'utiliser sur n'importe quelle source de données. En gros, dès que tu as imagine, tu as un stream, une liste, plutôt une liste d'ailleurs, mais qui est en mémoire en Java, et tu veux chercher dessus, et tu as plein d'événements dessus. Tu peux construire un index dessus, ou autre chose qui soit stocké en OFIP, etc. Et tu peux utiliser cet index pour aller faire du requêtage et savoir plus vite où est-ce que tu dois aller chercher la mémoire derrière.
D'accord, ok.
Il est très très chouette l'article. J'avais pas eu le temps de le lire et...
Tu dis ça parce que vous faites de la base de données en LV1, du coup, vous prenez bien l'article.
Non.
Alors pour le coup, c'est vraiment... ça, c'est Richard Startin, donc il y a un de mes collègues qui travaille chez Star 3 sur la base. Et bon, déjà, le mec est une brute. Hein. Chaque fois que je discute avec lui, c'est ultra intéressant. Il est vraiment à fond dans le profiling et l'optimisation. Et du coup, quand tu fais des articles comme ça, un peu accessibles, c'est vraiment très intéressant parce que c'est... C'est souvent des parties où on travaille assez peu, finalement, et même en tant que développeur Java, et bah, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui va présenter une lib pour créer des index, en fait, finalement.
Oui, il y a très très peu d'articles dans cette catégorie-là, et surtout qui partent d'aussi haut niveau, et qui descend au fur et à mesure. Non, l'article est vraiment bien fait. Hein. Chapeau.
Cool. Yannick, un commentaire?
Non, j'ai pas eu le temps de le lire et là je suis en train de le parcourir et ça me plaît.
Cool. Du coup, on va enchaîner avec un lien de Pierre. Tu vas nous parler de QuickWit. Qu'est-ce que c'est QuickWit?
Alors, QuickWit, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative à Elasticsearch qui est réécrite from scratch en Rust, et qui vient d'annoncer une nouvelle version qui est la 0.3. Alors,
Ah oui, c'est tout neuf aussi.
C'est tout neuf aussi, ouais. Ils l'ont annoncé hier.
Sachant qu'alternative à EES, c'est ambitieux aussi.
Ouais.
Enfin, moi, je connais moins bien que vous, mais...
En fait, le gros gain que tu as avec QuickWit, c'est que tu vas avoir un découplage entre le stockage et le compute. Donc, tu prends un Elasticsearch, tu vas stocker des logs dedans, tu vas tes données vont être portées par des nœuds Elasticsearch. Et oui, le calcul, pardon, au lieu de dire compute, on me souffle à l'oreille. Donc, tu vas avoir, en fait, ta donnée va être portée par des nœuds Elasticsearch, là où dans QuickWit, en fait, il va utiliser du stockage S3. Donc, en fait, du coup, tout le stockage est donné,
d'Amazon, ouais.
Tout est mis en object storage et lui construit ses index par-dessus. Donc, t'as un coût, tu divises par je ne sais combien ton coût de stockage de ce que tu indexes. Et c'est vraiment pas mal. On a eu quelques démos. En vrai, c'est vraiment pas mal. Et du coup, dans les nouvelles fonctionnalités de la 0.3, il y a une UI qui vient d'apparaître. On peut indexer des choses sans schéma. C'était un truc qui manquait. Ils sont compatibles maintenant avec l'aggregation API d'Elasticsearch. Ils sont compatibles avec le proto d'Elasticsearch pour ingérer les documents. Et il y a un support de Amazon Kinesis qui est le publish subscribe. Alors le publier souscrire de Amazon.
Non, tu peux dire le pub sub, mais ouais.
Voilà.
D'accord. Et c'est codé en quoi ?
C'est codé en Rust, bien sûr.
Bien. Ok, cool. Donc c'est tout nouveau aussi, c'est une 0.3.
Oui.
Ouais. Yannick ?
Les données sont sur S3, mais les index, ils sont stockés où ?
Alors, tu as une partie en RAM et tu as une partie sur S3 aussi, de mémoire. En fait, il y a tout un jeu avec les index, avec les différents composants. Alors, on m'a fait la présentation il y a 10 mois, c'est-à-dire il y a 6 ans. Je ne pourrais pas te refaire précisément le schéma, mais je peux te retrouver ça. Et on mettra dans le schéma.
Du coup, chaque nœud entre guillemets va avoir son propre index, ou il va y avoir un moyen que les index soient partagés par tout le monde.
J'ai pas compris ta question.
Bah, si les index ne sont pas dans un point centralisé, il faudra quand même pouvoir les distribuer à d'autres personnes, parce que les autres, oui, je sais pas, clients vont pas reconstruire leurs index.
Oui, t'as une notion. Ouais, tu peux partager un index sans souci. Pour okay. Le coup.
François, t'allais dire un truc.
Moi, c'est pareil que Pierre. On m'en a longuement parlé. Alors pour le coup, c'est pas les créateurs de la base qui la démo. C'est un pote de Montpellier qui adore cette base et qui m'en avait parlé. Et ça a l'air ultra intéressant. Et en fait, ce que je note, c'est surtout que ça va beaucoup dans la mouvance de ce qu'on commence à avoir dans la nouvelle génération de base ou même les anciennes qui essayent de partir là-dessus, qui est vraiment cette espèce de décorrélation d'une partie du stockage pour aller vers du stockage froid. Même si la DPF réduite, en fait, va vraiment réduire. Moi, je me souviens quand j'étais chez Elastic, avant qu'on parte, les derniers trucs qui étaient en train de sortir, qui étaient vraiment ultra attendus, c'était tout ce qu'on appelait le cold storage. En fait, finalement, c'était cette notion de dire, c'est intéressant d'avoir une partie, notamment gérée par la base, qui est de dire, ça sert à rien de garder toutes les données chaudes, que ce soit en RAM ou en disque, beaucoup trop proches. Et on peut balancer des choses en remote parce que le coût de stockage est vraiment réduit. Et il y a plein de cas d'utilisation en fait où t'es pas obligé d'avoir accès ultra rapide à cette donnée. Alors après, c'est des choix de base de comment est-ce que tu vas gérer ce truc-là. Mais c'est une vraie tendance qu'on voit de plus en plus de on veut avoir du calcul, on veut avoir du stockage, on veut avoir du stockage chaud parce qu'on a besoin de faire des choses qui sont vraiment mises sous pression. Typiquement sur Pinot, c'est ce qu'on a. On a beaucoup de trucs qui sont mis chaud parce que y a beaucoup d'analystes en réel. Mais d'un autre côté, t'es pas obligé d'avoir 100% de ta base en accès rapide, quoi. Tu peux aussi te permettre d'avoir quelques latences de chargement pour réduire tes coûts de stockage pour 50% voire 70% de ta base dans certains cas, où tu vas réduire ton coût de stockage par 2, 3, 4, et du coup, c'est énorme, en fait.
L'un d'entre vous peut expliquer un peu aux auditeurs un stockage à froid concrètement on va dire que c'est sur un provider de cloud, quel qu'il soit, de leur côté dans le data center, dans les machines, ça veut dire quoi exactement ? C'est stocké sur un disque, sur une bande, sur... Ça dépend.
Ça dépend. Généralement, ce que moi j'appelle communément stockage à froid, je sais pas, peut-être si quelqu'un va réussir, c'est en fait quand c'est en fait par rapport au taux de temps que tu mets à lire. Si tu regardes dans la RAM ou même un accès SSD local, l'ordre de magnitude d'appeler un système comme S3 pour loader, il est énorme en fait. Parce que tu as le temps de latence, tu as le temps de réseau, et tu vas appeler des régions qui sont différentes, des fois tu vas être distribué, donc même si tout ça s'est optimisé, à la fin, l'ordre de magnitude sera toujours de 10 puissance 6 en termes de microsecondes, quoi, on va dire, de nanosecondes, quoi, réellement dans le CPU. Et sur du Rocket Attack, quand tu fais une base de données, bah, cette différence de magnitude, elle est énorme. Donc après, derrière, comment eux, ils le stockent, etc., finalement, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est plus la notion de... Avant, on voulait quasiment que toutes les données soient accessibles dans un temps de latence très faible. Et maintenant, on voit qu'il y a une approche où on commence à se dire, bah, peut-être qu'en fait, que si on regarde ce qui est utilisé réellement, bah, peut-être qu'il y a une grosse partie du stockage qu'on peut aller mettre dans un truc où la latence finalement d'accès peut être beaucoup plus réduite et on peut gagner en taux de stockage en fait.
C'est surtout... Pour gagner en coût et peut-être aussi, on commence à avoir des préoccupations sur l'énergie aussi peut-être. Est-ce qu'il y a des formes de stockage qui sont à froid, qui sont beaucoup plus efficientes? Je sais pas. J'en sais rien, je vous pose la question.
Je sais pas si c'est si le gain est si impressionnant que ça.
D'accord.
Énergétique, je sais pas.
La rédaction ne s'engage pas. Okay.
Voilà, c'est ça.
Bon, je peux parler de latence, enfin, typiquement de la diff entre d'aller faire du glacier ou d'aller faire du S3 chez Amazon, ouais, il y a une grosse différence de latence, mais après en termes énergétiques de comment ça tourne chez eux, je saurais pas dire.
Ouais, faudrait... Ok. Cool. Toi, t'as testé, Yannick, t'en avais entendu parler de QuickWit?
Pas du tout, non. Je découvre le produit
comme moi,
et je comprends surtout l'intérêt de le faire, parce que... Ouais. Ouais, des données, là même sur la base de données Time Series de François, les données qui ont 3 ans, c'est pas sûr qu'elles seront tapées dans la semaine. Quoi.
Ouais.
Peut-être qu'elles le seront, mais pas forcément. Donc tout stocké sur le disque dur, ben, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la plupart des opérations. Quoi.
Super.
Les logs aussi, hein. Les logs.
Oui.
T'en as besoin quand c'est la merde, enfin surtout les vieux quoi.
L'index, tu vois, il doit être à chaud, pour pouvoir chercher des choses dedans. Mais par contre, ta donnée, elle a pas besoin d'être portée par la machine en local, tu vois. C'est ça l'idée, parce qu'au final, tu vois, si tu t'es obligé de garder à chaud tout le temps tes données de log qui ne font que grandir par définition. T'as qu'une envie, en fait, c'est de dire, mais en fait, je les lis de temps en temps, je préfère diviser mon coût par 10 et prendre un peu de latence dans mes analyses, quoi.
Ouais, bien sûr.
Ah, y a aussi un truc dont... Alors là, ça a plus parlé aux gens qui codent des systèmes distribués, pour le coup. Mais il y a aussi une notion de le fait de décorréler le calcul du stockage. Ça fait que si jamais tu veux garder de la donnée chaude tout le temps, t'as une espèce de gestion de segments à faire. C'est-à-dire que quand tu veux savoir où est ta donnée, c'est certains segments, certains nœuds, certains endroits où ça va être stocké, même si c'est répliqué. Alors que si elle est stockée à froid, bah en fait, tu t'en fiches dans l'absolu de savoir quel nœud va venir faire le calcul. Parce que du coup, ta donnée, tu vas aller la chercher, en fait, à l'instant T. Donc, t'as toujours cette gestion à devoir faire. Hein. Elle existe toujours, mais elle est différente. C'est-à-dire que t'es pas en train de devoir gérer ta donnée où est-ce qu'elle est à un instant T, de toujours la garder chaude. Parce que tu peux la déplacer, parce que de toute façon, elle est froide. Après, là, c'est des choix d'implémentation, etc. Je pense que les gens de QuickWit arriveraient et me défonceraient d'avoir dit ça, parce qu'ils font sûrement des choses beaucoup plus intelligentes. Mais dans l'idée, il y a quand même cette manière de penser, ça change la manière dont on va segmenter la donnée et gérer la donnée à l'intérieur du système distribué.
Ouais. Cool. Bah, du coup, on va terminer avec un petit... une sorte de petit outil de l'épisode, entre guillemets. C'est que IntelliJ a rajouté une espèce d'éditeur de tableau dans le Markdown. Yannick, tu peux nous en dire plus?
Oui, tout à fait. Je passe mon temps à faire du Markdown en ce moment et j'avais des tableaux à éditer. Et en Markdown, bah, les tableaux... c'est un cauchemar, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une lettre, il faut décaler tout le truc parce qu'autrement, c'est pas joli. Et du coup, ben, si on est un peu autiste, on passe 4 heures à faire un tableau alors que c'est plus simple d'aller sur un générateur sur Internet pour aller générer son tableau, ce que je faisais avant. Et là, IntelliJ a eu la bonne idée de rajouter dans son plugin Markdown, qui est built-in, donc il n'y a même pas besoin de l'installer, ça fonctionne dès qu'on installe un de leurs logiciels, donc, par exemple IDEAR pour Java qui est gratos, qui permet en fait de pouvoir faire de la manipulation de tableau Markdown comme on pourrait le faire dans un Word. Donc on édite son tableau et puis si on a envie de rajouter une colonne, bah, on dit « rajoute-moi une colonne ». Si on a envie de centrer les éléments dans la colonne, on dit « centre-moi le truc ». Si on a envie d'intervertir deux colonnes, on dit juste « déplace-le à gauche, déplace-le à droite ». Et pareil pour la suppression ligne-colonne. Donc c'est un truc qui paye pas de mine, mais qui fait gagner beaucoup de temps.
Ouais, c'est presque un peu WYSIWYG en fait maintenant. Enfin, WYSIWYG, ça l'était déjà d'une certaine manière, mais il y a vraiment un côté... autour des caractères de pipe et de tirer un ensemble de contrôles avec des clics droits, etc., qui est vraiment cool, je trouve.
C'est ça, ça...
Vous l'avez essayé, les autres ?
Non, mais c'est vrai que je sais que le Markdown, moi, j'utilise pas d'éditeur pour le faire, sauf pour les tables, parce que les tables, on va pas se le cacher, c'est ultra chiant, t'es obligé de passer en colonnard, de prendre des trucs, et éditer une table, c'est toujours un enfer. Alors, autant tout le reste du Markdown, je le fais sans éditeur, autant c'est vrai que les tables, c'est assez cool d'avoir un truc pour t'aider.
Et t'allais dire, Yannick, je t'ai coupé.
Ouais, ça, je voulais juste dire, en fait, ça rajoute des petits widgets autour du tableau où on peut faire du clic-bouton sur les différentes parties pour pouvoir faire nos opérations.
Cool. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cet épisode. Et donc, on va terminer avec le choix musical de notre invité. Est-ce que tu peux nous en dire plus, François, sur la musique que tu nous as choisie pour terminer cet épisode ?
Ah oui, je peux.
Qu'est-ce
Alors,
que c'est ?
Je suis pas parti sur les trucs trop énervés. Donc, j'ai choisi de mettre en avant un groupe qui commence à être assez connu sur la scène, qui s'appelle Polyphia. Donc, qui est un groupe de metal prog un peu mat rock. Et j'ai choisi d'utiliser donc le full instrumental. Alors moi j'adore personnellement, donc quand je dis que c'est connu, c'est connu dans les 10 personnes qui écoutent ce genre de truc, hein, on est d'accord.
Voilà. Déjà tu viens de nommer un sous-genre de métal qui est peut-être dans l'arbre des sous-genres de sous-genres de sous-genres
voilà,
de métal.
Voilà, pour ceux qui sont, ils verront où on est, pour ceux qui nous sachons, voilà. Et du coup j'ai choisi cette chanson là qui est même pas la plus connue en fait qu'ils ont, tout simplement parce qu'elle met en featuring donc Mario Caramera et Eric Ansel, qui sont en fait les deux guitaristes d'un autre groupe de math rock que j'adore et assez peu connu, lui qui s'appelle Chun. Et voilà, donc je trouve que leur style de jeu est vraiment très cool et ils s'intègrent très bien, donc voilà, j'ai choisi de partager ça. Et n'hésitez pas à aller dans la scène math rock si vous intéressez, parce que c'est ultra cool.
Super. Eh bien, merci à toi, François, pour ce choix musical. Merci à tous les trois pour cet épisode. On mettra les liens pour vous suivre vos chaînes Twitch d'animateurs en direct, je ne sais plus comment on dit. De joueurs animateurs live, direct, machin. Je vous remercie encore une fois. Merci à tous les auditrices, auditeurs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie, toujours avec François. À la semaine prochaine, au revoir.
Salut !